L'heure bleue sur France Inter.
J'entends, et toi mon double. Dans son haleine de saillie, elle, lui, les deux sexes délaissés, assis sur muret, écrire sur des feuillets, tu nous l'entends, le crayon raturé reprendre, sa bouche marmonner son récit, ses répliques au mon moi de scène. Te voilà disparu, tes hauts talons verts dessus, les mouches déjà, plateau, mi-bas, fête foraine, le bec du vautour me pinçait le bras, muni de mes cinq sens. Serais-je vivant? Quel errant me le certifier? Serais-je passé humain? Nos trois avec ou retenus, quoi faire, nous trois humains? L'heure bleue, ce soir, Pierre Guyotat est notre invité à l'occasion de la publication « Par la main dans les enfers » et d'un livre d'entretien avec Donatien Gros. Mais comme tous les soirs, nous allons commencer en musique. Et pour vous, Pierre Guyotat, nous avons choisi Rokia Traoré.
Miele, miele d'un folie.
cette voix de Rokia Traoré qui a fait un étrange chemin puisqu'elle a été élevée dans la langue française, elle est d'origine malienne, elle est retournée dans son pays et elle chante maintenant dans sa langue maternelle qui est le Bambara.
Oui, le Bambara, oui.
Vous avez combien de langues en vous, Pierre Guyotat ?
Oh, j'ai déjà bien le français, déjà beaucoup, c'est déjà pas mal.
Qui vous l'a appris ?
Bah, c'est mes parents, ma mère, enfin, les premiers, la maternelle, les sœurs, c'était des sœurs plus ou moins civiles, qui m'ont appris déjà un peu à lire, après les frères des écoles chrétiennes, parce que c'était l'école libre, et puis après, au fond, tous les gens vous apprennent la langue quand vous êtes enfant, surtout dans un village. Je veux dire, enfin, vos petits camarades, les commerçants, tout le monde, les paysans, bien entendu, c'était un... Région surtout paysanne. Les ouvriers, c'était aussi, il y avait une petite industrie. Tout le monde apprend la langue, finalement. Il y a aussi l'église, évidemment, parce que nous pratiquons l'église tous les dimanches, d'une façon très fervente, mais pas dévote. Donc l'église, c'est très important. Le chant. C'est là où on chantait, quand même, oui.
Alors, je ne vais pas dire de vous que vous êtes écrivain, parce que vous détestez ce mot, vous détestez le mot d'auteur aussi. Je vais peut-être prononcer ce mot de poète, vous l'acceptez ?
Oui, je l'accepte, même s'il est un peu vieux jeu, mais je l'accepte au fond.
Inventeur de langue ?
Mais je crois que je n'invente pas de langue, je réinvente le français, disons. Je reste là-dessus, vraiment, parce que je ne veux pas apparaître comme franco-français, etc. Mais enfin, c'est cette langue que je travaille dans ses profondeurs musicales, dans ses profondeurs lexicales, syntaxiques, si vous voulez. C'est la langue française, bien entendu, la langue française a été aussi très influencée par les autres. Elle a influencé beaucoup de langues en Europe et dans le monde, bien entendu, et depuis très longtemps. Ça aussi, il faut le savoir, aussi, il faut à nouveau le savoir tout de même. Et elle a été influencée par beaucoup de langues, bien entendu. On le voit aujourd'hui, où les langues d'ailleurs donnent non pas un nouveau souffle, je ne pense pas, donnent de nouveaux mots, de nouvelles expressions. Alors évidemment, bon... Un mot, c'est pas suffisant pour créer une expression, avec l'expression vient le souffle, finalement, si vous voulez. Donc, il y a quand même du souffle dans les expressions des jeunes, par exemple, qui inventent des choses très drôles, souvent extrêmement drôles aujourd'hui, qu'on aurait tort de dédaigner, du reste, je trouve. En tout cas, moi, j'aime beaucoup, même si c'est très dur, rude, par moments, c'est extrêmement drôle. Donc, c'est déjà un souffle, vous voyez, quelques mots, c'est déjà une musique.
Votre écriture, Pierre Guyotat, est un souffle, est un rythme, est une mélodie, pas très facile d'ailleurs, ni à lire, ni à mémoriser. Il faut se laisser entraîner dans votre musique des mots que vous voulez violente et contrastée. J'ai essayé d'en lire quelques fragments en début de cette émission pour la commencer. Il faut savoir, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, que vous avez inventé un rapport à cette langue française, et ce, dès le premier livre, qui s'est intitulé « Tombeau pour 500 000 soldats », c'était en 67. Ensuite, il y a eu « Éden, Éden, Éden ». Ça, c'était en 1970. On reviendra sur l'étrange histoire et malheureuse histoire de ce livre. Ensuite, il y a eu beaucoup, beaucoup de livres. Littérature interdite, prostitution, le livre, vivre, progéniture, formation, arrière-fond, joyeux animaux de la misère, par la main dans les enfers. Le numéro 2 sort. Il y a eu un autre texte dont on parlera tout à l'heure qui s'intitule « Coma ». Vous parliez de votre enfance, de ce petit village où vous aviez entendu plusieurs langues qui vous ont habité, qui vous ont transformé. Que vous est-il arrivé quand vous avez quitté ce village et que vous avez dû subir la dure loi de l'internat ?
Ben, je ne pense pas qu'on puisse dire pour moi, disons, la dure loi de l'internat, parce que en général, quand je suis dans une communauté, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, l'armée, etc., je me fonds assez bien dans cette communauté. Donc la loi, elle me pèse, quelquefois je l'ai refusée. Je refusais surtout à l'armée, comme vous le savez, je l'ai refusée très violemment, très très violemment, physiquement, parce que là c'était vraiment trop. Mais au collège, nous sommes ensemble, devant le même âge, nous sommes encore des enfants. C'était des pères, c'était pas des professeurs, c'était des pères, c'était des peintres qui étaient des prêtres de paroisse, en fait, hein, avec leurs défauts, leurs tout, etc., leur bonté aussi, d'une certaine façon, si vous voulez. Ils étaient comme des paysans qu'on aurait pu rencontrer dans le, voyez, dans les champs, sur les chemins, un peu, avec quand même une science. Oui, enfin, il savait le latin, le grec, beaucoup. Il savait des choses, la Bible, etc., le français, l'histoire, etc. Donc, au fond, l'intérêt d'apprendre, chez moi, en tout cas, c'était pas tellement apprendre, c'était en fond d'entendre. J'ai plutôt aimé entendre, plutôt qu'apprendre. J'étais pas un très bon élève dans la mesure, si j'étais doué pour certaines choses, j'étais pas un très bon élève dans la mesure où j'ai toujours, du reste, ça me reste toujours, j'ai du mal à penser qu'on puisse apprendre. Je pense que les choses, on doit les savoir tout de suite, si vous voulez, c'est un petit peu, c'est pour ça que je suis plus poète qu'autre chose, si vous voulez. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, bien entendu. Mais on ne m'a jamais convaincu qu'en apprenant les choses, je pouvais au fond les savoir. Voilà, je préfère apprendre les choses moi-même, si vous voulez, par la vie aussi, d'une certaine façon. J'ai un rapport particulier avec ce qu'on appelle l'enseignement, si vous voulez. J'ai du mal à comprendre qu'au bout de certains efforts, il y a la chose. La chose, voilà. Moi, je vais tout de suite à la chose. Et si la chose ne vient pas, eh bien, on laisse de côté. Mais j'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai entendu beaucoup et j'ai posé beaucoup de questions.
Et en même temps, vous dites encore aujourd'hui, dans votre pratique d'écriture, qu'il y a tout à l'intérieur de votre tête, que c'est comme ça, que beaucoup de choses s'y bousculent et qu'il faut que ça sorte. Et c'était déjà comme ça dans l'enfance.
Oui, mais ça sortait avec aussi dans un ordre aussi, parce que j'aime bien l'ordre aussi, en général. L'ordre, disons, la succession des choses, rien n'est amené dans le récit qui ne soit justifié, si vous voulez. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit au fil de la plume, pas du tout. D'abord, je n'écris plus avec la plume, mais en plus, je n'écris pas du tout comme ça, comme on dit, ce qui me passe par la tête. Tout est très construit, vous l'avez vu, très conduit, très travaillé. C'est pour ça que ça tient encore un peu le coup, si vous voulez, parce que sinon, il y aurait longtemps que ça aurait été évacué. Mais non, j'ai toujours beaucoup travaillé ce que je faisais, voilà. Ce que j'avais décidé de faire moi, voilà.
Votre écriture se situe entre l'extase, le ravissement et le plus grand effroi. Je sais que quand vous étiez jeune, vous aviez songé à devenir prêtre, et je crois savoir qu'encore aujourd'hui, vous lisez l'Ancien Testament. Pourquoi n'êtes-vous pas devenu prêtre, Pierre Guyotat ?
Je dirais peut-être par faiblesse, au fond, parce que ça supposait... Je voulais devenir prêtre quand j'avais 10, 12 ans, 13 ans, 12, 13 ans encore, si vous voulez. Après, je n'ai plus eu ce désir, qui est un désir très fort. Mais je pense que c'est par faiblesse. Je n'étais pas assez fort, peut-être pas assez fort de caractère pour refuser certains des plaisirs de la vie. Parce que je pense qu'un prêtre est quand même un ascète, si vous voulez, malgré tout.
La résistance a été très importante dans votre milieu familial. Vous venez de parler de votre père et de votre mère. Oui. Et d'ailleurs, quand on regarde la dédicace de votre premier livre, Tombeau pour 500 000 soldats.
Oui, qui est mon troisième livre par ailleurs. Oui.
Qui est votre troisième livre, oui. Parce que les deux premiers livres n'ont pas atteint véritablement leur public. Le premier livre public, entre guillemets, Tombeau pour 500 000 soldats est dédié à Hubert, Benjamin de ma mère morte, né en 1920 en Haute-Silésie, mort en 1943 au camp d'Oranienburg-Sachsenhausen, Brandebourg.
Oui.
Et je pense que la résistance, résistance, insoumission, résistance dans la vie, mais résistance dans la langue aussi, est au cœur de votre pratique d'écriture.
Oui, mais moi je n'ai pas l'impression de résister, si vous voulez, c'est de l'extérieur qu'on le voit. Moi personnellement, je vis ces choses-là d'une façon souvent très douloureuse, bien entendu, comme vous le savez, pas à un moment, mais je le vis d'une façon très normale. C'est mon devoir, etc. Je le fais sans barguiner, comme on dit. Maintenant que de l'extérieur ça soit vu comme une résistance, ça je peux le comprendre. C'est vrai que j'ai eu des exemples dans ma famille, évidemment. Il s'agit du plus jeune frère de ma mère, et sa mère est morte en lui donnant naissance déjà, enfin 1920, et là il était donc un peu l'enfant de tous mes oncles et tantes, et un peu notre frère aîné, si vous voulez. Quand il a été pris par la Gestapo, il avait 20 ans, si vous voulez, 20 ans. Donc c'est une figure très tutélaire de notre enfance, une figure tragique et en même temps extrêmement belle, dont on découvre aujourd'hui encore même avec mes frères, des lettres qu'il a écrites à son père quand il était enfermé à Fresnes, par exemple, des lettres poignantes. Enfin, il a 20 ans, il a à peine vécu. Il dit « j'ai vécu trop légèrement, etc. Je vais maintenant prendre la vie au sérieux ». C'est terrible quand on pense qu'il est à Fresnes. « Je vais prendre la vie au sérieux », par exemple. Et il est mort presque, Je dirais oui, presque comme un saint, vraiment, parce que la sainteté civile, ça existe, bien entendu. Le saint est celui qui pense qu'il ne fait rien, qui n'est pas, on dirait, qu'il est vraiment au-dessous de tout, au-dessous de ce qu'il devrait faire. Et je pense qu'il était comme ça. Donc c'est un exemple magnifique.
Les échos de la guerre sont très présents à l'intérieur de la totalité de votre œuvre, oui. Pierre Guyotat. Il y a évidemment la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a eu, vous l'avez dit tout à l'heure, la guerre d'Algérie. Oui. Donc vous avez écrit « Tombeau pour 500 000 soldats », puis il y a eu « Eden, Eden, Eden », qui a été censuré pendant un nombre considérable d'années. Et puis après la publication de tout cela, il y a eu une sorte de retrait, peut-être d'interrogation de vous par rapport à l'écriture.
Oui.
C'est-à-dire que l'écriture, pour vous, c'est une économie corporelle. Écrire, c'est vivre.
Oui, tout à fait. Oui, oui, je ne conçois pas les choses différemment, si vous voulez. C'est pour ça que je suis relativement... Enfin, je n'ai aucun mépris, mais je vis relativement à part du milieu qu'on dit littéraire. Si vous voulez. J'ai du mal à penser qu'on puisse faire de cette activité-là, qui est une activité... assez central, si vous voulez. Produire du beau, du nouveau pour moi aussi beaucoup. Ça soit une activité comme les autres, si vous voulez. Je pense pas qu'on puisse faire une société autour de ça, si vous voulez. Je pense que c'est quelque chose qui se vit comme un acte qui peut paraître par moments aux autres mystique, peut-être, c'est vrai. Parce que quand on a écrit quelque chose dont on sent que c'est fort, si vous voulez. On a l'impression d'être au-dessus de tout. Pas forcément au-dessus de tous, mais au-dessus de tout. Alors, il y a cet acte-là dont il ne faut pas sous-estimer la nature un peu hallucinatoire aussi.
Alors, les hallucinations, vous connaissez, parce que vous avez connu l'addiction à l'héroïne.
Non. J'ai pratiqué comme tout le monde à cette époque-là. Un petit peu comme ça. C'était surtout lié à des questions amoureuses, comme beaucoup de choses. Donc non, je pas. Mais j'étais déjà assez, sans doute affaibli physiquement et affaibli à l'époque et affaibli de toute façon par une chose qui était tout simple que je racontais dans Coma après, qui était que j'avais conscience d'être allé loin, si vous voulez, peut-être un peu trop loin dans la transformation de la langue, si vous voulez. Donc ça, je l'ai vécu très intensément. Pour ça, je peux en parler vraiment en toute connaissance de cause, si vous voulez. Je sais que cette opération-là, dans la mesure où c'était l'opération centrale de ma vie. Ça aurait été une opération de volon dingue, ça, c'est autre chose. Mais une opération centrale de ma vie, elle mettait en question ma propre vie, si vous voulez. Et c'est la transformation de la langue que j'ai menée très loin, peut-être trop loin, avec le livre, par exemple, peut-être. Je ne sais pas, peut-être, c'est pas à moi de le dire. A eu évidemment des effets, parce que ça me rongeait perpétuellement.
Et vous êtes arrêté de vouloir limite, vivre, mais limite. Sans même vous en rendre compte.
Non, j'ai même pas. Oh, j'ai jamais voulu ne pas vivre. J'aime beaucoup vivre. Mais non, c'était en fait parce que tout simplement la vie ne me regardait plus, comme j'ai expliqué. Mais la dépression, je suis tombé en dépression vraiment grave. Je pouvais encore vivre seul. Je pouvais encore vivre pas uniquement dans des maisons de santé, si vous voulez. Je pouvais encore vivre. J'étais très dépendant de certains petits produits. Mais qui était dangereux à la longue, si vous voulez. Et qui étaient des produits qu'on trouvait enfin partout, c'est tout. Mais enfin, c'est pas le plus important. J'étais surtout rongé de l'intérieur par cette interrogation. Ai-je bien fait d'aller aussi loin, vous voyez, là, dans l'écriture, parce que je n'avais pas de précédent. Je n'ai pas tellement de précédent, si vous voulez. Donc je me suis retrouvé très seul dans cette affaire, si vous voulez. Voilà. Et donc j'ai perdu effectivement le sommeil, beaucoup de choses, etc. Mais je n'ai pas perdu l'appétit. Simplement, je pensais que j'avais mangé, simplement. Donc c'était une question de mémoire. J'étais tellement affaibli, je ne pesais plus que 45 kilos. Donc oui, parce que c'est pour... Je suis quand même assez grand. Hein, donc, je ne pesais plus que 45 kilos. Donc certaines facultés étaient vraiment diminuées. Facultés de mémoire, entre autres. Mémoire de mémorisation des lieux. Je ne savais plus très bien où j'étais par moment. Sans être véritablement fou. Parce que non, je gardais toujours... voilà. Mais en tout cas, je pensais que j'avais fait la chose. Parce que je la pensais, la chose. Je suis un poète, je pense la chose avant de la vivre, presque. Ou pour la faire vivre à d'autres, si vous voulez. Donc, je pensais avoir mangé. Je pensais avoir dormi, etc. Or, je n'avais ni dormi, ni mangé. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps,
Rimbaud n'est pas loin, et vous avez écrit, après cette traversée très douloureuse, un texte magnifique qui s'intitule Coma, que Patrice Chéreau a voulu lire. D'ailleurs, vous étiez dans la salle ce soir-là au Théâtre de l'Odéon quand Chéreau a lu votre texte. Nous allons l'écouter et après nous écouterons un Schumann que vous aimez tant et que vous avez choisi.
Une sœur de ma mère, Clotilde, se meurt alors en médecine à l'hôpital Brousset. Bâtiment de briques rouges à haut toit d'ardoise, aujourd'hui disparu, dans le 14e arrondissement. Très belle. Ma mère nous loue souvent, à nous, enfants, sa chevelure lourde et brune. Née en Pologne, comme tous ses frères et sœurs, au sortir de la résistance, de ce qu'elle y a vécu et vu à la prison de Fresnes en août 1944, elle décide, dans l'incompréhension de presque tous ses proches, de rompre ses fiançailles avec un jeune et beau et riche Argentin et s'engage à vie, pauvreté, chasteté, dans la mission de France. Infirmière, diplômée d'État, habituée au bal et sortie d'avant-guerre, la voici maintenant fille de salle dans les hôpitaux de Paris, puis à Alger, puis à nouveau à Paris, à Lyon, enfin, au plus près des plus petits de ce monde.
Ich zieh dahin, dahin, Ade, mein Freund, ich frage,
c'est en décembre 81, Pierre Guyotat, qu'on vous retrouve inanimé dans votre appartement. À partir de là, vous êtes hospitalisé. La vie reprend son cours tout petitement. Antoine Vitesse viendra vous voir à l'hôpital pour vous demander de monter tombeau pour 500 000 soldats. Mais n'est-ce pas la levée de la censure de votre texte Éden, Éden, Éden qui va vous ramener véritablement à la vie?
Oh, je ne pense pas. Je pense que cette levée d'interdiction par François Mitterrand, qui était déjà intervenu oralement à l'Assemblée en 1970 contre cette mesure, ce qui est assez rare, tout de même dans l'enceinte parlementaire nationale, donc a fait lever, enfin par son ministre de l'Intérieur, cette mesure. Mais moi, j'étais tout à fait dans l'incapacité de comprendre ce qui se passait quand j'étais dans un très mauvais état à ce moment-là. C'était le moment où Vitesse montait en tombeau pour 500 000 soldats à Chaillot, pour l'inauguration du nouveau Chaillot, avec Faust et Britannicus, qui était un beau voisinage tout de même. Et donc, j'étais vraiment très mal pendant cette période-là. Ça n'est qu'au bout de quelques mois, voire quelques années, hein, 83, que j'ai récupéré, si vous voulez. Alors, la mesure de levée, je l'ai vécu. J'ai même fait, je crois, un texte plus ou moins arraché à l'époque pour dire ma satisfaction, mais j'étais très loin de tout ça à cette époque-là. Vous savez, la dépression, c'est ça, la dépression. Avoir envie de s'en sortir, c'est même extraordinaire, ça, si vous voulez. Comme je le dis souvent, c'est la vie qui se détourne de vous. C'est très biblique. Vous savez, dans la Bible, il y a des personnages, Job, par exemple, et d'autres ou Saül, dont non seulement Dieu se détourne, mais aussi pratiquement la vie. Et Dieu, c'est la vie à l'époque, bien entendu. C'est ça, c'est Dieu, c'est la vie qui se détourne de vous, qui ne vous regarde plus.
Mais comment sait-on qu'on est en vie?
Ben justement, c'est la question. On vit, vous savez, on vit. Il faut Il faut le peu qu'on a d'espoir, il faut le mettre dans, non pas dans l'espérance que ça cessera, mais dans une mécanique quotidienne de se lever, se nourrir, s'habiller, faire son ménage, etc., aller un peu dans la rue, commencer à signer les premiers chèques qu'on signe d'une main absolument tremblante. Vous voyez, moi, je pouvais même plus faire ça. J'étais complètement tremblant. Donc, c'était extrêmement dur. On est quand même sous le regard des autres, si vous voulez. Et donc, c'est au bout. Non, ce qui m'a, il y a une scène, je crois que je l'ai dit au coma. J'ai été invité au Festival d'automne à un spectacle des aborigènes d'Australie, de chant et de musique formidable par Michel Guy. Et j'ai été très bouleversé par ce, alors que j'étais plus bouleversé par rien. J'étais très bouleversé par ce texte. Et quand je suis sorti, j'ai senti que quelque chose, c'était au fond décelé, si je peux dire en moi, si vous voulez. Oui, c'est vraiment ça. Et j'ai rencontré dans les coulisses Michel Guy, qui était alors directeur du Festival d'automne, et qui m'a parlé, et qui m'a, à ce moment-là, proposé d'écrire un texte de théâtre. Et cette scène de 2 heures a fait beaucoup pour que je gravisse un échelon, disons, voilà.
Donc tout s'est décelé par la musique, on vous sait grand mélomane, oui. Pierre Guyotas n'est pas indifférent à vos différents registres d'écriture, qui empruntent justement à différentes lignes mélodiques dans la langue française et dans différents français. Vous parlez des aborigènes d'Australie, mais vous avez choisi pour l'or bleu un bluesman que nous ne connaissions pas, qui s'appelle Peg Leg Howell. Oui. C'était dans les années 20.
Les années 20, oui.
Comment vous l'avez entendu pour la première fois?
Je l'ai entendu
parce grâce à vous, les auditeurs vont le découvrir.
Non, parce qu'un de mes amis, qui était un grand spécialiste de blues et du jazz, me l'a fait entendre. Il y avait les premiers disques. C'est un personnage tragique. C'est un fils de petit fermier noir de pas de Louisiane, mais d'un état au-dessus, je crois. Qui a commencé à faire de la musique, qui a fait de la prison aussi, qui est sorti de prison, qui a refait de la musique, qui est retourné en prison, je crois, et qui a refait de la musique. Et puis que quelqu'un a entendu chanter dans la rue, qu'il a enregistré. Et puis c'est devenu non pas une star, mais un personnage, historiquement important dans l'élaboration du blues.
On a trouvé New Prison Blues.
Voilà, New Prison, oui. Tout est dans le titre déjà. Et c'est une voix admirable, de simplicité... total avec un grain de voix magnifique.
Says I cut your throat, mama, drink your blood leg wine. I'll cut your throat, mama, now drink your blood leg wine. See you can't quit me, ten or need a try. I'm going up the country, mama. Where the time ain't long. I'm going up the country, mama. I swear the time ain't long. Don't believe I'm leaving. Count the days I'm gone. I stood on the corner till I got soaking wet. I stood on the corner brownie till I got soaking wet. I bowed my head at every brown I met. I stood on the corner, looked 2 blocks and a half. I stood on the corner, looked 2 blocks and a half. I stood on the corner, looked 2 blocks and a half. I didn't see my rider, but I'm sure I heard her laugh. Said he wouldn't let no woman got hair like drops of rain. Now I don't let no woman got hair like drops of rain. Said the woman I love got hair like a horse in me. Mom, if you don't want me, what make you whine and cry? Mom, if you don't want me, what make you want and cry? You call me sweet daddy when you see me passing by. When you see me coming, mama, hush your window high. When you see me coming, mama, hush your window high. When you see me leaving, hang your head and cry. I ain't gonna drink muddy water, sleep in a hollow tree. I'd rather drink muddy water, sleep in a hollow tree. And to hear my fairy say she don't want me.
Je ne peux pas laisser quelqu'un en dehors du monde, c'est impossible, dites-vous Pierre Cuyotat dans le livre qui sort simultanément d'entretien avec Donatien Gros et qui s'intitule « Humain par hasard ». Et vous continuez en écrivant « Je veux que tout le monde soit réuni dans le même espace de miséricorde ». Il y a cette parabole du Christ qui, partant chercher une personne, perd quasiment tous les autres, c'est cela. Rien ne vaut le sauvetage d'une âme et je suis sûre que beaucoup de gens sincères pense la même chose, même des victimes. Je ne peux pas laisser quelqu'un en dehors de ce qui nous constitue, de ce qui constitue le cœur de l'humanité. Et ce mot de l'humanité, il revient dans tous vos ouvrages, et ce, depuis le début. Qu'est-ce qui nous fait humains et qu'est-ce qui nous fait continuer à rester humains, selon vous, Pierre Guyotat ?
Je ne sais pas s'il faut continuer à rester humain, à vrai dire.
Oui, parce que vous aimez beaucoup les animaux et vous préféreriez être un animal.
Non, peut-être pas. Non. Mais je pense que la frontière est extrêmement ténue. Elle est ténue d'abord historiquement parlant, préhistoriquement parlant. L'homme est issu de l'animal. Faut pas, tout même pas l'oublier. Si l'on croit, bien entendu, si on est créationniste, bien entendu, on n'y croit pas. Mais enfin, c'est pas mon cas. J'ai senti très tôt que j'étais en même temps fils de Dieu. C'est compliqué. J'étais fils de Dieu étant un chrétien. J'ai fils de Dieu directement. Ce qui fait que ça vous fait un père de plus, un père beaucoup plus puissant que celui que vous avez, même si vous l'aimez beaucoup, ce qui était mon cas, ce qui est resté, vrai. Mais vous sentez bien que vous venez de quelque chose d'autre, que vous n'êtes pas d'une création ex nihilo. C'est impossible. Un enfant sait ces choses tout de même, il le sent, même s'il ne formule pas, parce que ça ne se fait pas. Mais il le sent. Moi, j'ai senti très tôt, non pas l'homme préhistorique en moi, mais disons l'enfant préhistorique en moi. Et évidemment, avant, le jeune chimpanzé ou le jeune, je ne sais pas, et on peut remonter.
À propos des chimpanzés, vous avez vu cette nouvelle scientifique, là, très récemment, que des chimpanzés, observés par des savants, ont découvert que des chimpanzés savaient créer des outils.
Des outils, oui.
Façonner des outils.
Mais bien sûr, oui. Mais oui.
Ça vous a pas étonné?
Pas du tout. Je pensais que c'était une constatation qui était faite depuis très longtemps déjà. J'étais surpris de voir qu'on en faisait tout un plat, si je peux dire. Ça me paraît évident. Il faut essayer de se penser autre qu'on est quand même. Essayer, si vous voulez, de remonter un petit peu le fil. Je sais bien que les gens ont autre chose à faire, je sais bien. En tout cas, moi, c'est mon boulot, d'une certaine façon, de poète, en fait, celui qui fait, de celui qui réfléchit, de remonter la pelote, si je peux dire. Vous voyez?
En tout cas, dans toute votre œuvre, il y a l'éloge des animaux, il y a l'éloge de l'animalité aussi en nous. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si « Par la main dans les enfers » s'intitule, porte comme sous-titre « Joyeux animaux de la misère ». Mais vous le savez sans doute pas, Pierre Guyotat, mais dans l'heure bleue, nous demandons à quelqu'un qui connaît le travail de notre invité de pouvoir en parler aux auditeurs. Et là, nous avons demandé à Michel Suria, qui est universitaire, qui est auteur d'un Georges Bataille, qui a écrit aussi un livre sur vous, qui s'intitule « Mots et monde » de Pierre Guyotat, qui est le directeur de l'actuelle revue Ligne, de parler de vous. Écoutez.
La figure que représente Pierre Guyotat dans la littérature, c'est pas la littérature d'hier, dira-t-il, parce qu'il se méfie de ce mot. Que représente-t-il dans ce qui s'écrit depuis maintenant 30, 40 ans? L'œuvre de quelqu'un qui n'a pas trahi. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de littérature, il n'y a pas beaucoup d'œuvres. Certainement, Pierre Guyotat est-il l'auteur d'une œuvre? Il est rare qu'on puisse se dire cela. S'apercevoir que quelqu'un mène, conduit une œuvre, et qu'il ne trahit à aucun moment ce qui a rendu nécessaire cette œuvre dès le début, s'y tenir aussi fidèlement, moyennant tous les outils qui pouvaient lui être nécessaires pour le faire tout entier, voilà qui est extrêmement rare. À l'évidence, ce qui est rare et que je voudrais dire aussi quand je dis qu'il est celui qui n'a pas trahi la nécessité de l'œuvre en lui, c'est qu'il n'a pas trahi non plus les formes qu'il fallait qu'il donne à cette œuvre. Il est né dans la littérature et dans l'édition à un moment où la littérature pouvait être transformable et transformée. Beaucoup l'ont fait en même temps que lui. Lui seul a continué de le faire. S'il y a là-dedans quelque chose d'assez héroïque, on ne dit pas assez ce qu'il en coûte d'être l'auteur d'une œuvre. On ne dit sans doute pas non plus assez ce qu'il en coûte de s'en tenir strictement aux difficultés qu'une œuvre peut soulever d'interprétation, de compréhension, de lisibilité. Ceci lui a été beaucoup objecté longtemps. On ne dira jamais assez la solitude que cela implique. La solitude de Pierre Guyotta est considérable. C'est-à-dire que je n'oublie pas, bien évidemment, que son œuvre a été immédiatement identifiée, reconnue, célébrée, admirée. Il a continué. Il a diversifié, il a donné des formes à ses récits différentes, peut-être plus accessibles comme les livres que sont Coma, Formation, qui lui ont certainement acquis un public nouveau, plus large. Les grandes œuvres, celles qui s'incarnent depuis Tombeau, en passant par Éden, jusqu'à Progéniture, celle auxquelles il travaille, comme je le sais, celle qui vient de paraître, encore, ça n'allait pas de soi qu'il le soutienne à ce point-là. Il pouvait s'y décourager, n'importe qui se fût découragé à sa place. On ne tient pas non plus assez compte de la possibilité du découragement qu'il y a pour les artistes. C'est un travail quand même extrêmement harassant, extrêmement déprimant aussi, que de devoir soutenir une telle représentation, une représentation peut-être aussi sombre a priori, mais aussi assez gai, ce qu'on n'a pas vu tout de suite. Pierre Guyotta est tout sauf un auteur morbide, et il y a une très grande gaieté, et une gaieté qui ne correspond pas exactement à ce qu'on attend spontanément de la gaieté. Il manifeste une volonté de drôlerie, et donc une gaieté à l'œuvre de là-dedans. Il faut cette gaieté, sans quoi cette représentation serait strictement intenable, par d'espoir aussi d'ailleurs, sans doute.
Alors nous venons d'entendre Michel Suria, je vous voyais sourire Pierre Guyotta en écoutant l'analyse de Michel Suria sur votre œuvre, la solitude, le travail harassant, la nécessité de continuer, l'obstination et la patience du poète. Et en même temps, quand on lit votre dernier ouvrage, Par la main dans les enfers, et qu'on lit ce Humain par hasard qui vient de sortir simultanément, moi je retiendrai de ce que vient de dire Suria plutôt la gaieté, voire la jubilation, comme si d'avoir traversé toutes ces métamorphoses à la fois physiques, psychiques, corporelles et d'écriture, vous ont mené vers une sorte, peut-être même, de surjubilation de l'existence. Comme si la vie, il fallait la prendre à bras le corps, à bras le sexe, à bras la surénergie vitale du monde qui est là quand on vous lit en tout cas.
Oui, de toute façon, Michel Suria a tout à fait raison, bon, tout ce qu'il dit, bien entendu, c'est sûr. En tout cas, moi qui le vis de l'intérieur, si vous voulez, je le vis d'une façon peut-être pas jubilatoire, non. Je le vis d'une façon joyeuse, heureuse, d'une certaine façon heureuse, oui, heureux. C'est comme il est assez rare que je sois mécontent de mon travail à la fin d'une journée, ça peut arriver.
En même temps, vous n'êtes pas un mec prétentieux. Hein. On en connaît qui font la pause dans ce milieu-là, pas vous.
Je sais pas. En tout cas, j'ai trop conscience de ce que nous sommes au départ, à l'origine, et de ce que nous allons devenir aussi, de ce que nous sommes par rapport aux autres. Qui sommes-nous, comme dit le pape, pour juger le pape? Je cite encore le pape. Je suis désolé, mais enfin, je cite encore quelque chose de la religion. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? C'est toujours un mystère. Je me suis toujours attaché depuis l'enfance à comprendre les êtres que j'avais en face de moi. Même si je ne les manifestais pas forcément, si vous voulez, mais je regardais beaucoup, j'écoutais beaucoup. J'aimais beaucoup, surtout. Il y a très peu de personnes que je n'ai pas aimées, au fond. Et ça continue maintenant, du reste. J'aime tout le monde. Mais je pense que c'est mon travail. C'est le travail de tout imaginatif, de tout aimer, de toute façon. Parce que il faut tout rendre. faut tout rendre sur la page, dans le texte. Donc il faut tout aimer. Vous ne pouvez pas rendre quelque chose que vous n'aimez pas. C'est pas possible. À ce moment-là, vous devenez un polémiste, un vitupérateur, et moi j'ai horreur des vitupérateurs et des polémistes. Je n'aime pas ça. Ça m'intéresse pas.
Dans votre dernier ouvrage, vous parlez de la fraternité et de la solidarité silencieuse.
Silencieuse, c'est-à-dire, oui. Mais on ne peut pas ne pas se sentir solidaire, si vous voulez. Encore faut-il tout de même bouger un peu de chez soi. Encore faut-il aller dans la rue, regarder les gens, suivre des gens quelquefois, même les regarder, les écouter dans le métro, imaginer leur vie aussi, ce que j'ai toujours fait, de toute façon. Ce que je continue de faire, par écrit. Mais j'ai fait ça quand j'étais enfant aussi. Si vous voulez. Il est sûr que si j'avais été confronté vraiment d'une façon terrible au mal, à ce qu'on appelle le mal, qui existe, bien entendu, peut-être aurais-je un sentiment différent de la vie. C'est possible. Mais j'ai été confronté à des choses très dures, tout de même. Bon. Et confronté à moi-même, confronté à ce que j'écrivais aussi. Ça a l'air de rien, mais c'est pas si facile que ça, de vivre avec ce... Vous savez, maintenant je le vis relativement bien, mais pendant longtemps, je me demandais comment vivre après avoir écrit ce que j'avais écrit. Parce que tout ce que vous faites, ce que vous avez fait est publié. C'est-à-dire que c'est dans le public. Donc chacun peut s'y référer, si vous voulez. Donc vous êtes suivi parce que vous avez écrit en quelque sorte, si vous voulez. C'est une chose qu'on peut éprouver très, très fortement.
En tout cas, je n'oublie pas que vous avez été quelqu'un qui n'a jamais été indifférent au sort du monde. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez pris des positions extrêmement courageuses pendant la guerre d'Algérie qui vous ont coûté très cher. Oui. Et puis, je n'oublie pas votre lettre de solidarité à Salman Rushdie. Je crois que vous avez été le premier écrivain à manifester cette solidarité qui, là, pour le coup, n'était pas silencieuse. Je n'oublie pas non plus que vous avez écrit dans le journal Le Monde, je crois, un article retentissant contre l'intervention américaine en Irak décidée par Bush, et tout ça, ça continue chez vous, ce désir de révolte et d'insoumission.
Oui, bien sûr, oui. En tout cas, je continue toujours à m'intéresser à ce qui se passe. C'est difficile de faire autrement, de toute façon. Plus qu'à m'intéresser. À vivre vraiment, à essayer de vivre ce que les autres vivent. Il faut, comment dire, ça peut paraître excessif, mais je ressens très fort ce qui arrive aux autres. Je ressens beaucoup plus que ce qui m'arrive à moi, disons. Je ressens beaucoup, et ce n'est même pas la peine que je vois une vidéo de Syrie ou d'ailleurs pour le ressentir. En ce moment, je ressens très fort ce qui se passe autour de Mossoul, par exemple, simplement parce que j'imagine ce qui va se passer quand tous ces territoires seront reconquis. Ça va être terrible. Il va y avoir des règlements de compte terrifiant, parce qu'on voit bien que ce qui se passe en ce moment, c'est la lutte entre deux religions, entre le chiisme et le sunnisme. C'est évident. Donc ça peut être terrible. Donc j'y pense à ça. Je pense aux gens qui vivent ça, qui sont dans leur maison à Mossoul, dans les villages environnants, vous savez, qu'ils soient chrétiens, musulmans, peu importe. Et je pense à cette angoisse pour les enfants, ce que vivent les enfants. Oui, non seulement le manque d'eau, mais vraiment la terreur, si vous voulez, la terreur, la peur de l'inconnu, parce qu'on ne sait jamais ce qui... Je pense aussi en Afrique aussi, tout ce qui se passe, les massacres qui se passent, les gens qui arrivent la nuit, qui égorgent, c'est terrifiant. On ne peut pas... Et malgré tout, on vit, c'est ça qui est terrible. On vit, on continue, on descend, on va faire ses courses, et en même temps, ces choses-là terribles se passent, pas très très loin, peu importe que ce soit long ou pas. Ça nous concerne complètement, bien entendu.
Nous allons écouter votre second choix musical, Pierre Guyotat. Il s'agit de la dernière œuvre de Stravinsky, Le hibou et le chat. Oui.
The owl and the pussycat went to sea in a beautiful pea green boat. They took some honey and plenty of money wrapped up in a £5 note. The owl looked up to the stars above and sang to a small guitar. Oh, lovely pussy, oh, pussy, my love, what a beautiful pussy you are, you are, you are.
sing, oh, let us be married. Too long we have tarried, but what shall we do for a ring?
Magnifique, cette dernière œuvre de Stravinsky. Hein,
la boucle est bouclée, en quelque sorte. C'est une comptine enfantine. Hein. Et le vieux Stravinsky, on ne sait pas si c'est voulu. Il était très malin. Hein. Et c'est ce qui fait le charme de cet homme aussi en tant qu'homme. Il est mort, enfin il est mort juste après, je crois. Est-ce qu'il a eu préscience de quelque chose et composé cette complainte, qui est une complainte en style moderne, en plus en style sériel. Et ça passe magnifiquement. L'histoire est très drôle, bien entendu.
Et vous pensez qu'un jour la boucle sera bouclée, Pierre Guyotard?
Oui, hélas, oui. J'ai dit hélas, oui, oui. La boucle se rapproche, je ne sais pas.
Ça n'a pas l'air de vous inquiéter, la mort. Vous pensez que vous irez tout droit au paradis?
Oh non, je suis très inquiet, comme tout le monde. Comme tout le monde, enfin, comme tous ceux qui sont arithmétiquement proches, disons, des zones où elle peut commencer à frapper, d'une certaine façon, si vous voulez. Mais non, je pense tous les jours, quand je sors de chez moi, je pense toujours que je peux être renversé par une voiture, ou je ne sais quoi, ou tomber. Oui, c'est... Non, on y pense sans arrêt. Par moments, c'est même très, très insupportable.
En même temps, la fin de votre livre d'entretien est absolument magnifique, parce que ça se termine par les enfants. Je vais lire le dernier fragment.
Oui, oui.
Je suis contemporain d'un monde qui est fait par les générations récentes. Peut-être vivrai-je encore une époque dont les enfants que nous voyons dans la rue seront les acteurs principaux.
Oui. Mais oui, peut-être. En tout cas, je souhaite vivre le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible dans l'état où je pense être, aujourd'hui, bien entendu.
Et en chacun de nous, il y a une lumière.
Une lumière, vous voulez dire en...
Ben, je sais pas, c'est vous qui dites
sûr.
Ça.
Oui, bien sûr, oui. Oui, c'est évident, quand vous regardez les gens, bien sûr, ils ont un regard, ils ont une lumière. Tout individu compte, voilà. Compte également pour moi, c'est pas...
Et comment être dans ce monde alors que, quelquefois, on ne peut pas y appartenir parce qu'on en est exclu pour des raisons économiques,
oui,
ou pour des raisons, matérielles ou psychiques, etc.
Des raisons d'infirmité psychique, oui. Des raisons aussi matérielles, bien entendu. Des raisons de chute. On voit dans la rue aujourd'hui énormément de gens, et de plus en plus de gens à la dérive, comme on dit. Je dis à la dérive parce que je pense que c'est le mot qui convient. Et là, évidemment, c'est une question permanente et une inquiétude et une tristesse très grande, et une angoisse, bien entendu, oui. Parce que ces êtres que vous voyez ont été des enfants, des époux, des pères, il ne faut quand même pas l'oublier, si vous voulez. Peut-être même des grands-pères, d'ailleurs, oui. C'est ça qui est cruel, si vous voulez. C'est que ceux qui sont dans la rue n'ont pas toujours été dans la rue. Il y en a qui sont effectivement habitués depuis très longtemps, qui sont souvent des irréductibles d'une certaine façon. Il y en a dans une société, c'est comme ça. Et ils sont réduits aussi pour des raisons bien précises aussi, des raisons de malheur. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont tombés petit à petit, si vous voulez. Et moi, je ne peux pas voir ces personnes sans penser à ce qu'il ou elle a été il y a quelques mois, quelques années. Je me pose la question de savoir si leurs enfants, s'ils en ont, si leurs enfants se soucient d'eux, par exemple, si leurs frères et sœurs se soucient d'eux, oui, c'est ça qui m'importe.
Ben, merci beaucoup, Pierre Guyotard. Frère Guyotard, non, Pierre Guyotard.
Non, oui.
Pierre Guyotard.
Allons pas si loin, oui.
Et merci pour ces deux livres qui viennent de sortir aux éditions Gallimard. Oui. L'un s'intitule « Par la main dans les enfers », sous-titre « Joyeux animaux de la misère 2 ». Et Humain par hasard, entretien avec Donatien Gros. Et nous allons nous quitter en musique. Ça, c'est pour vous faire danser, parce que je sais aussi que vous aimez beaucoup danser. C'est Young Thug, Pick Up the Phone.
Yeah! Oh yeah! Travis Scott, Tucker, baby. Yeah. I bought four, I call your whore. Just been fucking short. I just went got my door. Pull it off and I'm gone.
then I go up before. Then I roll up, that roll up. Then I'm calling your whore.
Merci Pierre Guyotat. Vous avez écouté durant l'heure bleue d'abord en début d'émission Rokia Traoré et son titre Onielé. Et grâce à Pierre Guyotat, vous avez écouté Peg Leg Owell, Prison Blues, Schumann. Vous m'aidez?
Schumann, c'est Adieu à la France. C'est le premier lead d'un cycle magnifique qui s'appelle Poème de Marie Stuart. C'est-à-dire, c'est des poèmes de Marie Stuart, poèmes français, traduits en allemand, que Schumann a donc mis en musique.
Et puis, vous avez écouté, grâce aussi à Pierre Guyotat, la dernière œuvre de Stravinsky, Le Hibou et le Chat. Merci à Thierry Dupin, merci à Lola Constantini qui a réalisé cette émission, qui a été préparée comme chaque soir par Anne-Sophie Dazar et Elodie Royer, aidée d'Arthur Daniel. À la technique ce soir, c'était Philippe Duclos. Merci à tous.